Et bonjour à tous, Boker Tov les Koulam. Voilà, alors, notre horaire du vendredi matin n'est pas bidouk la bonne horaire du jeudi soir, je devrais dire, pour nos amis outre-Atlantique. On a eu une grosse coupure de courant cette nuit, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire le chiour à 5h du matin, comme d'habitude. Voilà, les techniciens de Chevrat HaChashmal sont venus, et donc maintenant, on peut recommencer à bosser. Donc voilà, le cours avec 2h30 de retard, mais c'est parti, on n'arrête pas la Torah pour autant. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit peu de Parashat Vayakhel. Parashat Vayakhel, et on va parler aussi certainement dans un autre cours de Parashat Pekoudé. Alors les amis, allons-y sans plus attendre. Donc, nous sommes dans la Parashat de Vayakhel. Et la Parashat de Vayakhel, bien vous la connaissez. La Parashat de Vayakhel, il s'agit de la réalisation concrète du Mishkan. Dans notre paracha, ça y est, nous allons non seulement savoir comment il faut le faire, mais il faut le faire. Et oui, ça y est. Et là, tout de suite, il va falloir se poser une question. Il va falloir se poser une question quand on regarde le début de la paracha, et c'est une question que nous connaissons. Il y a marqué dans le début de la paracha, Vayakel Moshe et kol adat bene Israël, vayomer aleem, elle adevarim asher tziva Hashem la'asototam. Moshe a réuni le peuple juif et leur dit « Voilà les choses que vous devrez faire. » Et moi, je m'attends à ce qu'on me donne les directives de construction du Mishkan. Puisque c'est de cela qu'on va parler, de la construction du Mishkan, la construction du proto-Mikdash. Et là, pas du tout. Et là, pas du tout. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, eh bien, regardez. Sheshet yamim ta'asem te'asem melacha o bayom ha'shvi'i elachem kodesh shabbat shabbaton la'ashem kol ha'ose bo melacha yumat lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha'shabbat. Et là, tout de suite, c'est très très bizarre, puisqu'on est en train directement de me parler du Shabbat. Pourquoi est-ce que on a besoin de me parler du Shabbat en préparation, si je puis dire, en introduction à la construction du Mishkan? Eh bien, tout de suite, je vais vous donner ce que Rashi nous emmène, c'est très connu. Rashi nous dit, pourquoi est-ce que on a mis les versets du Shabbat avant le Mishkan? Que tu saches que la construction du Shabbat, la construction du Mishkan, transgresse pas Shabbat. Tu peux pas construire le Mishkan pendant Shabbat. Bon, moi, je veux bien. Mais est-ce qu'il s'agit ici simplement d'une indication de halakha concrète? Alors que nous savons que la halakha, on ne l'apprend pas de la Torah Shebirtav. On l'apprend de la Torah orale, de la Torah Shebealpé. Donc, qu'est-ce que cela vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'on m'a présenté, le Shabbat et le Mishkan côte à côte? Eh bien, d'abord, il faut comprendre une chose. Quand on parle de Shabbat et de Mishkan, ils sont très souvent mis côte à côte. Ces deux mitzvot, ces deux dimensions extraordinaires, sont très souvent mis côte à côte dans la Torah. On va retrouver des versets du style « Et Shabbatotai tishmoru v'et mikdashi tirau ». C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver cette semaine, ce duo de mitzvot, Shabbat et Mishkan. Et la réponse à pourquoi on a besoin de relier le Shabbat et le Mishkan, c'est que c'est la même chose. Le Shabbat et le Mishkan, c'est la même chose. Il y avait un philosophe juif américain qui s'appelait Avraham Yoshua Heschel, qui dans son livre sur le Shabbat, il écrit un livre sur le Shabbat, à la page 34, il dit « Ha-Shabbat einena kayemet leman yeme achulin, el ha-yeme achulin kayemim leman ha-Shabbat. Ha-Shabbat einena ha-Shabbat hi pisgat ha-chayim, ha-yom ha-shevi'i hu armon betoch ha-zman. » Alors, ça c'est la version hébraïque, et il écrit en anglais son livre, il nous dit que les jours de la semaine, le jour du Shabbat n'est pas pour la semaine, mais ce sont les jours de la semaine qui nous préparent à Shabbat. Il dit le Shabbat est un temple dans le temps. Et là, il va falloir comprendre de quoi on parle. Quand je dis que Shabbat et Mikdash, Mishkan, c'est la même chose, il va falloir un tout petit peu approfondir. Vous savez, l'objectif dans notre monde est d'arriver à dévoiler Dieu. Comment je le sais? Parce que l'objectif de notre monde est d'arriver à la Kedusha. La Kedusha, d'où je sais que c'est l'objectif de ce monde, tout simplement parce que dans le livre de Bereshit, lorsqu'on me parle de la création du monde, l'objectif final de cette création, le septième jour, on nous dit, Vayvarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayikadesh Oto. Le but du Yom HaShevi est d'arriver à la Kedusha. Or, quand on regarde dans le livre de Vayikra, on va nous dire « Kedoshim tiyu ki kadosh ani ». C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être Kedoshim pour pouvoir atteindre quelque part, entre guillemets, sa dimension de Kedusha, qu'on puisse se rencontrer. En vérité, tout le but de la création est de permettre une rencontre entre le Créateur et la créature. Comment est-ce qu'on dit une rencontre? Eh bien, en langage plus usité, eh bien, c'est une date. Et le Shabbat ainsi que le Mikdash Mishkan, eh bien, sont les éléments qui permettent à la date, à la rencontre. Et oui, quand on parle de rencontre, quelle qu'elle soit, moi et ma femme, eh bien, on a besoin de trois éléments pour que la rencontre ait lieu. Le premier élément, eh bien, c'est l'identité qui doit rencontrer. En l'occurrence, ma femme, moi. S'il manque un des deux, il n'y aura pas de rencontre. Ça, c'est évident. Là, on parle de Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne suffit pas. Il faut également, eh bien, une longitude et une latitude. C'est-à-dire qu'il me faut un endroit dans lequel va pouvoir se passer la rencontre. Mais il me faut également un temps dans lequel il va y avoir, au moment auquel il va y avoir la rencontre. Si je dis à ma femme, on se retrouve au canyon, et je ne précise pas quand, eh bien, il n'y aura pas de rencontre. Mais si je dis, on se retrouve demain à 2h, et je ne dis pas où, ben, il n'y aura pas de rencontre non plus. En d'autres termes, pour qu'il y ait rencontre entre deux dimensions, il nous faut et le temps et l'espace. Comment est-ce qu'on dit une rencontre en hébreu? Eh bien, en hébreu moderne, on dira une bgisha. Mais en hébreu du Tanakh, on dira le ivaed. Le ivaed, cela veut dire se rencontrer. De ce mot va être construit un autre mot qu'on connaît très bien et qui est utilisé également pour le Shabbat et également pour le Mishkan, le Mikdash. Quel est ce mot qui vient du terme le ivaed? Eh bien, c'est le mot Moed. Moed. Eh oui, d'un côté, on parle de Oel Moed. Le Mishkan s'appelle la tente de la rencontre, Oel Moed. Alors que le Shabbat, quand on lit la paracha de Emor dans le livre de Vayikra, et qu'on va faire la liste des Moadim, comme on pouvait avoir marqué dans le livre de Vayikra, quand on va nous dire Ele Moade Hashem, Asher Tikreu Otam Be Moadam. Elle est Moadé Hachem, eh bien, cela veut dire qu'il s'agit ici de temps de rencontre. Et là-bas, dans la paracha donc de Emor, eh bien, le premier des temps de rencontre, la première de la liste, eh bien, c'est Shabbat. En d'autres termes, Shabbat, en tant que prototype des Moadim, eh bien, doit être mis en parallèle avec le Mishkan Mikdash, qui lui aussi est Moed. En d'autres termes, si j'ai Shabbat ou Pessah, Shavuot, Sukkot, ce que vous voulez, les Moadim, Shabbat en tête, et que j'ai également le bon endroit, eh bien, la rencontre entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu est bel et bien possible. Mais dans le même temps que je dis cela, eh bien, nous avons un grand problème aujourd'hui, car il nous manque un des éléments. C'est-à-dire que nous avons l'identité d'Israël, nous avons les temps de rencontre, Shabbat ve Moadim, Shabbat et les fêtes, mais il nous manque le Beth Amikdash. Il nous manque le Beth Amikdash. Quelque part, notre rencontre est branlante. Alors oui, certes, celui qui habite en Eretz Israël, il peut un petit peu recevoir cette Kedushat Eretz Israël qui nous approche de Shabbat, nous approche de Mikdash. Aval, ce n'est pas encore au top. Et vous allez me dire, mais non, mais en hébreu, une fête, ça se dit Chag. Effectivement, dans la Torah, une fête, ça se dit Chag, qui vient du mot Chuga, qui veut dire un cercle, un cycle. Car la fête revient de manière cyclique, de la même façon que le sidour qu'on utilise durant les fêtes s'appelle un marzor, parce que c'est une fête qui revient. Très bien. Mais, eh bien, la fête s'appelle Chag, la rencontre s'appelle Moed. Donc, même en Israël, où on peut s'approcher plus d'une rencontre, eh bien, on va dire que la rencontre est quand même derrière un rideau. On n'a pas véritablement la rencontre tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash et tant qu'on n'a pas, eh bien, cette Kedusha des Moadim du temps. Donc, on a besoin d'avoir les deux qui vont de pair. Vous aurez compris que Shabbat et Mikdash et Mishkan, eh bien, vont ensemble. Mais allons un petit peu plus loin. Shabbat, Mikdash, c'est la même chose. On a dit même combat, rencontre, Moed. Mais je voudrais pousser l'exégèse encore plus loin. Et oui, car on nous dit que les 39 travaux pour construire le Mishkan sont les 39 travaux interdits pendant Shabbat. Moi, je veux bien. Mais Sheila c'est lama. Le Shabbat, je pense que je n'apprends rien à personne. Le Kiddush parle de lui-même. Vaychulu Hashemayim vaaretz vechol tzevaham. Vaychal Elohim bayom Hashavim melachto asher asa. Vaishbod bayom Hashavim mikol melachto asher asa. Kivo Shabbat mikol melachto asher. Vaivarech Elohim et Yom Hashavim kedeshoto. Kivo Shabbat mikol melachto shebar Elohim laasot. Vous connaissez très bien ce verset. Ça, c'est le Kiddush du vendredi soir. Mais dans le Kiddush du Shabbat matin, eh bien, on connaît aussi le fait que le Shabbat est considéré non seulement comme étant, eh bien, la concrétisation de la création, mais c'est également pour nous, ça c'était le Shabbat de Bereshit, mais pour nous, il s'agit de Oti, Beni ou Ben Ben Israël, Oti le Olam, qui cherche et yamim, Asa Hashem. En d'autres termes, le Shabbat, c'est tout simplement en souvenir de la création du monde. Je ne pense que je ne vous apprends rien. Zikaron le maase bereshit. Zikaron le maase bereshit, en souvenir de la création du monde. Donc Shabbat, je pense que c'est assez clair qu'il s'agit d'une réminiscence de la création du monde. Et le Mishkan dans tout ça? Eh bien, le Mishkan, en fait, les choses sont encore plus limpides peut-être. Vous savez bien comme moi que le projet de la création, l'idéal de la création, ce qu'on appelle Nezer Abria, le top du top. Eh bien, vous aurez bien compris que le top du top, c'est qui? Hey, c'est moi. Enfin, c'est toi. Enfin, c'est l'être humain. Ah, Adam, c'est lui qui est l'idéal de la création. Eh bien, dans la mesure où Shabbat vient nous rappeler la construction, la création du monde, etc., eh bien, le Mikdash vient remettre en valeur cette dimension de l'homme qui est, eh bien, l'idéal de la création. Le Mikdash, le Mishkan, fonctionne comme un être humain, vous aurez remarqué. On l'a expliqué dans les parachutes de Troumat et de Savé. Le Mikdash fonctionne comme le corps humain. Il y a le cerveau, c'est le Kodesh HaKodashim, Aaron Abrit. Il y a également, ensuite on sort du cerveau, on descend, il y a les yeux, c'est la Menorah. Ensuite, au milieu, il y a le nez, il y a le Mizbeach HaKetoret, où on va mettre l'encens. Ensuite, on descend, il y a la bouche. Et la bouche, c'est le Shulchan Lechem Apanim. Ensuite, on sort, il y a le cœur. Et ça, ce sont les Kohanim, Shem Melelev. Et ensuite, on descend, il y a les tripes. C'est le Mizbeach sur lequel on va faire tous les korbanot. Rabotai, Amigdash, Zeh Adam. Dans la mesure où le Migdash est la représentation de l'homme et qu'il est le microcosme du monde, eh bien, vous comprendrez pourquoi le Mishkan, Mikdash et le Shabbat, eh bien, sont intimement liés. Mais si on voulait aller encore plus loin pour bien pousser la compréhension, nous avons dit que le Shabbat et le Mikdash sont au davar. Et on a expliqué pourquoi. Et que donc, les travaux interdits pendant Shabbat sont les travaux interdits pendant, eh bien, la construction du Mishkan. Il y a 39 travaux. Il y a 39 travaux et il va falloir les faire correspondre, évidemment, eh bien, aux 39 constructions du Mishkan. Alors, Botaï, le Mikdash, on a dit, c'est en petit le monde. Shabbat, c'est en souvenir de la création du monde. Comment Dieu a-t-il créé le monde? Eh bien, Dieu a créé le monde par la parole. D'après la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre Mishnah 1, eh bien, nous dit la Mishnah, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Psst, il y a fait méode. Sauf que 10 paroles, 39 travaux, non. Va falloir aller encore plus loin. 39 travaux, 10 paroles, alors allons-y. Les 10 paroles ont été l'organisation de la création du monde. Va'yomer Elohim yehior, par exemple. Mais lorsque Dieu parle pour créer le monde, il y a la parole qui est l'organisation de la chose, mais cette parole est basée sur, eh bien, ce qui est la base du dialogue, la base de la conversation. Eh bien, ce sont les lettres de l'alphabet. Ot hi le'olam. Ot hi le'olam. On te dit, c'est quoi Ot? Un signe. Nachon, mais c'est également Ot. Une lettre. Oti le olam. Ce sont les lettres de la création du monde. Or, vous le savez bien, dans l'alphabet hébraïque, combien y a-t-il de lettres? Eh bien, il y en a 22. Je ne vais pas toutes les faire, vous les connaissez, vous avez été à l'Ulpan. Donc, 22 lettres de l'alphabet qui vont servir de base aux 10 organisations par les 10 paroles. 22 et 10, ça fait 32. C'est pas mal, mais c'est pas 39. Ah! Ah! Autant pour moi! Il y a des lettres en plus que j'avais oubliées. Non, je ne parle pas des sophiotes. Des mêmes sophites, pésophites. Non. Car les sophiotes ont été inventées plus tard. Les sophiotes ne changent rien à la lettre. Lorsque je dis même sophite, eh bien, c'est la même prononciation que le même tout court. Donc, il ne s'agit pas des sophites. Il s'agit des lettres pointées. Dans le judaïsme, dans l'hébreu, il y a des lettres dans lesquelles on peut mettre un point. Et ça change leur valeur, ça change leur signification, ça change leur prononciation. Il y a le vet, je lui mets un point, ça devient bête. C'est pas la même chose. Il y a le guimel, je mets un point, ça devient le rimel. Les témanim, eux, vont appeler ça à gimel. Il y a le dalet, et avec un point, ça deviendra le dalet. On appuie. Il y a, eh bien, le khaf. Avec un point, ça deviendra le kaf. Il y a également le fei. Avec un point, ça deviendra le pei. Il y a le sav. Et avec le point, ça deviendra un tav. Alors, certains ont été plus gardés par les sfaradim, certains ont été plus gardés par les ashkenazim. Mais le méchané, on a ces 6 lettres en plus à l'ulpan. Seulement, quand on voit un petit peu, on va à l'université, on apprend l'hébreu en mode plus hardcore, et bien on se rendra compte qu'il y a une 7e lettre qui peut avoir un point. C'était comme ça dans le Tanakh. C'est le Reish. Reish qui, avec un point, devient Reish. Donc, à Botaï, nous avons 7 lettres en plus qui sont des lettres pointées, dans lesquelles on va donner un accent supplémentaire. Et là, ça commence à devenir extrêmement intéressant. Parce que j'ai 10 paroles qui sont formées des éléments de base du dialogue, à savoir les 29 lettres de l'alphabet hébraïque. 10 paroles, 29 lettres, j'arrive à mon chiffre de 39 tant attendu. Ah ah ! Et si je voulais aller encore plus loin ? Oui, ce matin, on fait des maths. Si je voulais aller encore plus loin, je vous amènerai ce qu'écrit Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon, eh bien, va écrire un des premiers, si ce n'est le premier livre de grammaire hébraïque. Il s'appelle, son livre s'appelle Agron. Et dans son livre, eh bien, nous dit le Rabbeinu Saadia Gaon, nous dit, les 22 lettres de base de l'alphabet, donc sans les pointer, eh bien, peuvent se diviser en deux parties qu'il appelle les yesodot ve aneelamot, donc on va dire les lettres de base et les lettres plus effacées, qu'il va séparer en deux catégories de 11 lettres et 11 lettres. Alors, si vous voulez évidemment essayer de comprendre quelle est la valeur de ces 11 lettres et 11 lettres et 22 lettres et tout ça, eh bien, je vous invite à essayer de comprendre quelque chose au livre Resh Milin du Rav Kook. Le livre Resh Milin du Rav Kook, dans lequel le Rav va expliquer al pi Kabbalah, eh bien, toutes les valeurs et toutes les significations de chacune des lettres. Quoi qu'il en soit, maintenant nous avons 11, 11, 7 et 10. Et là, quand je fais cette séparation de 11, 11, 7 et 10, par rapport aux lettres de l'alphabet hébraïque, par rapport au Shabbat, par rapport donc à la construction du Mishkan, eh bien je trouve ça fondamental et tellement révélateur, car c'est exactement de cette façon que sont séparés les 39 travaux de Shabbat. 11, 11, 7 et 10. Incroyable. Incroyable. Nous allons regarder dans la Mishnah, dans le traité de Shabbat. Eh bien, dans la Mishnah, au chapitre 7, la Mishnah va nous faire la liste des 39 travaux interdits de Shabbat. Et là, ben, on va tomber des nues. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? On nous dit « Arba avot melachot arba imchasen khan » Et là, on y va. החורש, הזורה והקוצר והמאמר והחדה והדה שליחה והזורה והקורא והתוכן והמרקד והלש והאופה. Incroyable. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Nous avons mis en place les 11 premières avodot, melachot, slicha de Shabbat. Les 11 premiers travaux de Shabbat, eh bien, sont les 11 travaux qui sont nécessaires pour la fabrication de A à Z du pain. Depuis, eh bien, Achoresh, celui qui fait des sillons dans la terre, jusqu'au Ofé, celui qui va simplement faire du pain. Donc, ce sont les 11 lettres premières qui servent aux 11 premiers travaux qui servent à faire du pain. Les 11 travaux suivants qui commencent par, eh bien, à Gozez et Tatsemer, celui qui commence à effiler la laine, eh bien, on va pouvoir continuer à Gozez et Tatsemer, va Malabdo, va Megafo, va Zovro, va Tovro, va Moser. Nous avons les 11 travaux suivants, eh bien, qui servent tout simplement aux 11 travaux qui servent de A à Z, à quoi ? À faire un vêtement. Un vêtement en laine. En tissu. Faire du pain et faire un vêtement. Et les amis, faire du pain et faire un vêtement, ce sont les bases de l'existence humaine. Ce sont les bases du kiyoum. C'est ce que dit Yaakov Avinu. Lorsqu'il part en exil et que Dieu lui promet de le protéger, alors Yaakov va nous dire וידר יעקב נדר למור, אם יש אלוהים ממדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לחם לאכול, בגד ללבוש. Ce sont les deux éléments de base pour la survie de l'homme. Très bien, mais sauf que s'il n'a que לחם ובגד, il survit, mais il ne peut pas avancer. Il ne peut pas évoluer dans ce monde parce qu'il y a des cailloux par terre, ça lui fait mal aux pieds. Il a donc besoin, pour pouvoir avancer, il a besoin d'un vêtement pointé. Qu'est-ce que c'est un vêtement pointé ? Ça s'appelle des chaussures. Et oui, à l'époque, les chaussures en cuir, c'est les seules chaussures qui existent. Il n'y a pas de chaussures en coton, il n'y a pas de chaussures en tissu, en caoutchouc, en ce que tu veux. Il n'y a pas de babouche. Il y a les chaussures en cuir pour pouvoir avancer dans ce monde. Et par opposition, il n'y a pas vraiment de vêtements en cuir. C'est pas très pratique. Les 7 travaux qui suivent, dans la liste des 39 travaux, sont les 7 travaux pour de A à Z faire un morceau de cuir. Et attention, faire du cuir, ce n'est pas se faire un manteau avec de la peau d'animal. Non, non, le cuir, c'est une peau travaillée. Donc nous avons ici 7 melachot de Shabbat qui servent à faire un vêtement pointé, un vêtement plus fort, le cuir, par rapport aux 7 lettres pointées. Une fois que l'homme a les bases de son existence et il peut avancer dans ce monde, alors il peut se rendre maître de ce monde pour le dévoiler et amener la Kedusha. Pour cela, il doit se rendre maître, eh bien, des 4 éléments de ce monde. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et dans le positif et dans le négatif. Dans la notion de faire et dans la notion de défaire. Et donc, vous avez, eh bien, à Mav'ir ve'amechabe, celui qui allume le feu et celui qui éteint le feu, évidemment par rapport au feu. Celui qui écrit et celui qui efface, par rapport à l'eau, car l'écriture est basée à base d'encre qui est liquide. Nous avons également celui qui est bonnet vesoter, celui qui construit et qui détruit par rapport à la terre, et celui qui est kosher vematir, celui qui fait un œil qui le défait. Quel rapport avec l'air, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, nous ont appris les astronautes de la NASA que pour faire un œil qu'il tienne, il faut la pression atmosphérique. Dans l'espace, on ne peut pas faire de nœud. Et il nous restera à ce moment-là les 2 derniers travaux qui font le lien avec Akadosh Baruch Hu, qui s'appellent Makeh Bepatish ve Otsa Mirshut Lirshut. Makeh Bepatish, c'est tout simplement la notion de création, que avant, c'était pas un objet, maintenant, pouf, c'est le dernier coup, et pouf, ça devient un objet. Imaginez-vous, j'ai une espèce de structure en bois, avec un dossier, un endroit pour poser les torres, et 3 pieds, posé comme ça tout en bas. Ça me fait une structure comme ça, mais cette structure, c'est pas une chaise. C'est juste une structure en bois. J'ai un 4e plié que je vais maintenant visser. Eh bien, le dernier coup de vis pour que... Ou alors, je vais mettre un clou dedans. Pouf ! Eh bien, le fait que j'ai mis ce clou dedans qui fait tenir le 4e pied, ça fait qu'il y a 2 secondes, c'était pas un objet, c'était pas une chaise, c'était une espèce de sculpture contemporaine en bois. Et là, pouf, ça devient une chaise. Ça s'appelle Maké Bepatish. Et après, nous avons la dimension qui s'appelle Otsa'a Mireshut Lereshut. Le fait de sortir le monde de lui-même, c'est ce que Dieu a fait, Bereshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, eh bien, c'est la notion de création, de sortir le monde lui-même. Vous aurez compris que les 39 travaux de Shabbat sont donc, mais alors, intimement liés, eh bien, à la construction du Mishkan, qui est lui intimement lié également à l'homme, qui est celui qui doit réaliser la création du monde. Oh oh. La question qu'on doit continuer à se poser, donc, c'est, ok, j'ai très bien compris ça, mais la Torah va me donner un exemple de travaux de Shabbat. Quel est l'exemple que la Torah me donne pour les 39 travaux de Shabbat? Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom haShabbat. Ne pas allumer le feu. Il y en avait 38 autres, hein, des travaux. Pourquoi est-ce que tu m'as parlé d'Afka du feu? Eh bien, tout simplement parce que pour la construction du Mishkan, eh bien, il y a, c'est pas n'importe qui peut construire le Mishkan. Il y a uniquement celui qui a ce que la Torah appelle Chochmat Lev. Vekol Chacham Lev Bachem. C'est un terme qui revient de manière générique dans notre paracha. Ceux qui construisent le Mishkan sont Chachamim. Homme ou femme d'ailleurs, de l'homme chané. Ce qui voudrait dire qu'il faut donc être Chacham pour construire le Mishkan. De la même façon, pour faire les Melachot de Shabbat. Vous savez, lorsque je suis revenu à la Torah et que je retournais chez mes parents les premières années, eh bien, lorsque arrivait le moment de Shabbat, je disais à mes parents, vous inquiétez pas, j'y vais, je reviens tout seul, parce que mes parents avaient l'habitude d'aller à la synagogue, mais en voiture. Et donc, moi, je voulais pas prendre la voiture, mais je voulais pas les embêter. Donc, je dis, moi, je me débrouille tout seul. Et à chaque fois, mon père, parce que c'est un sadique, alors il disait, non, je viens avec toi. Et au début, alors, ma mère nous emmenait à la synagogue, et après, on devait rentrer à pied. Alors, c'est quoi? C'est 20 minutes de marche. Mais mon père, à chaque fois, il me disait, Tov, non, écoute, franchement, vous êtes un peu saoulants, les religieux, parce que franchement, je veux bien comprendre qu'à l'époque, dans le désert, c'était un travail épuisant de devoir aller chercher du bois, allumer du feu, tout ça. Ok. Mais aujourd'hui, faire tut, appuyer sur un bouton, tu vas me dire que c'est épuisant. Pourquoi est-ce que tu interdis l'électricité, nous, Bémet? C'est un travail! Alors, je ne voulais pas rentrer avec mon père dans la machloquette, entre le Chazonish, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, est-ce que l'électricité, c'est oui, un circuit fermé qui s'appelle bonnet, ou est-ce que ça s'appelle pas bonnet, ou est-ce que la lampe à incandescente, eh bien, la lampe à incandescence à l'époque, eh bien, ça s'appelle bichoul, parce que c'est le fil de tungstène qui est en train de changer de propriété chimique. Non, je ne suis pas rentré là-dedans. J'ai dit à mon père, tu sais, papa, il n'y a aucun interdit de travailler pendant Shabbat. Comment ça? Il m'a dit. Il dit, je lui ai dit, tu sais, il y a une différence entre la avod et melacha. Ce qui est interdit à Shabbat, c'est la asot melacha. Avoda, fais-toi plaisir. Il me dit, alors c'est quoi la différence? Eh bien, c'est très simple. Avoda, c'est une action purement et simplement physique. Par exemple, je rentre chez moi le Shabbat et la bibliothèque avec 500 livres est à gauche du canapé et ça me saoule. J'ai un tic, j'ai envie qu'elle soit à droite. Eh bien, je peux très bien déplacer mes 500 livres et la commode, la bibliothèque, ce que tu veux. J'aurai déplacé tout ça maintenant à droite du canapé. Je serai crevé, je me serai fait un tour de rein, mais j'aurai transgressé aucune avéra. Moutard de bouger des livres, Shabbat. Ah, parce que bouger des livres, Shabbat. J'ai pas parlé me rentrez pas dans les problèmes de halakha. J'ai pas parlé qu'il fallait les ordonner ou pas les ordonner. Stam! Je prends des livres, je les mets d'un côté à un autre. Ce n'est que la version humaine de déplacer un gros rondin de bois. Et déplacer un rondin de bois d'un point A à un point B parce qu'il me dérange, bah ça, tu me diras, mon ami, c'est les éléphants, ils le font mieux que moi. Hein. En d'autres termes, c'est pas une action qui est fondamentalement humaine. Alors qu'appuyer sur le bouton, c'est pas fatigant. Mais posons-nous la question, combien d'esprits extrêmement développés a-t-il fallu pour arriver à Thomas Edison et son ampoule? Zé Melacha. Voilà la différence entre Avoda et Melacha. Shechet Yamim Ta'avod, bien sûr, Veta Se Melacha. C'est-à-dire que non seulement tu vas faire des choses physiques, machin, mais tu vas aussi construire ce monde, développer ce monde. Yom HaShvi, lo. On ne fait pas de melacha à Shabbat. Melacha, c'est l'intelligence humaine. Un éléphant, il n'est pas capable de faire une melacha. À partir de quand l'homme a commencé à être intelligent, a commencé à se développer pour devenir un être complexe qui fait des choses que l'animal n'est pas capable de faire. Eh bien, si vous regardez au niveau de la science, eh bien, on va te dire que c'est à partir de la découverte du feu. À partir de la découverte du feu, eh bien, l'homme a pu commencer à cuire ses aliments. Il a donc commencé à manger beaucoup plus de viande. Avec ses protéines, son cerveau s'est développé énormément, qui lui a permis de commencer à faire des objets complexes. Et il est passé au stade d'Homo habilis. Et ensuite, il est devenu Homo faber. Et ensuite, il est devenu Homo sapiens acoltov. Donc, le feu a permis le développement technologique de l'homme. Vous comprendrez donc que l'exemple qui est donné pour les melachot de Shabbat, c'est lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom haShabbat. La dimension du feu qui permet à l'homme de grandir. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie que tu m'expliques cette histoire de l'homme qui a découvert le feu il y a des centaines de milliers d'années. Non, ça me dérange. Ah, toi, tu veux parler d'Adam Arishon en Shumbaya. À Motsei Shabbat, vous le savez comme moi, Adam Arishon était en bad. Il était en dépression totale. Pourquoi Adam Arishon était-il en dépression totale et à la fin de Shabbat? Eh bien, pour une raison très simple. Ben oui, c'est qu'il faisait tout noir. Lorsque Adam est rentré dans le Shabbat, il venait de fauter, mais il y avait les bougies encore de Chava. Le lendemain, il a fait jour. Et puis arrive Motsei Shabbat, il fait tout nuit. Et Adam pense qu'à cause de sa faute, nous dit le Midrash, « Aolam choser le tohu vavohu. » Ah ! Alors que faire ? Eh bien, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui donner quelque chose. Vous savez, dans le mythe de Prométhée, dans la culture grecque, eh bien, les dieux sont en compétition avec les hommes. Il n'y a pas une véritable osmose entre les deux, si bien que Prométhée, eh bien, est obligé d'aller voler le feu aux hommes, aux dieux, pour le donner aux hommes. Zeus va en être informé, et donc il va être extrêmement énervé contre Prométhée, il va l'attraper, il va l'enchaîner sur une des montagnes du Caucase, et à ce moment-là, un aigle viendra et lui mangera le foie chaque jour et chaque nuit. Le foie repousse et le lendemain, eh bien, Prométhée se refait manger le foie. Tragédie grecque. Si un jour d'ailleurs vous allez vous balader sur les montagnes du Caucase, eh bien, si jamais vous voyez un homme barbu avec le foie dévoré, eh bien, direz bonjour à Prométhée. Quoi qu'il en soit, dans la Torah, le Midrash nous dit autre chose. Que lorsque Adam a été extrêmement triste, eh bien, Akadosh Baruch Hu est venu le voir et lui a dit, regarde, tu vois ces deux pierres là par terre? Prends-les et frotte-les ensemble. Tu verras, tu vas kiffer. Et Adam a pris les pierres, les silex, il a frotté et est sorti de l'eau. De l'eau, n'importe quoi, et est sorti du feu. Mais attendez, si Dieu voulait donner le feu à l'homme, pourquoi il ne lui a pas donné une torche allumée? Parce que Dieu veut donner le feu à l'homme. De là, on voit qu'il n'y a pas de compétition entre Dieu et l'homme dans le judaïsme. Mais au-delà de cela, il ne veut pas lui donner simplement une torche. Il veut que l'homme participe à la création du monde. Rabotai, Shabbat, Mikdash, vous avez compris maintenant pourquoi est-ce qu'ils étaient complètement parallèles. Et ce sont les deux dimensions que le peuple juif a besoin pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais attention, cette dimension de Mikdash et de Shabbat, de Am Israël qui peut rencontrer Akadosh Baruch Hu, eh bien, cette dimension-là ne peut être atteinte que lorsque l'homme y remplit son rôle, que lorsque l'homme y construit le monde. Car comme on l'a dit, Dieu a donné des silex à Adam, il veut qu'il participe. Comme on l'a dit ultérieurement également, eh bien, précédemment, ce n'est pas ultérieurement, c'est précédemment, eh bien, on a vu que dans le Kiddush, on a dit « Kivoshavat mikol melachto asher bara Elohim la'asot » que Dieu a arrêté de bosser pour que nous, nous puissions faire. Nous avons donc, eh bien, une réalité extrêmement complexe. Car Dieu a créé le monde en 6 jours. Ah, ça devait être la guerre. Ça devait être la guerre dans les cieux. Comment est-ce qu'on crée le monde? C'était la véritable première guerre des 6 jours. Les 6 jours de création qui ont amené finalement à l'homme. Et ensuite, dans le 7e jour, puisque Vayere Vayvoker Yom HaShishi, le 6e jour est terminé. Ah oui, car je ne vous l'ai pas dit. Chaque jour de la création est composé d'un schéma identique, à savoir projet, réalisation, observation, conclusion. C'est le schéma qui revient dans chaque jour de la création. Par exemple, dans le premier, c'est le plus simple à comprendre. Vayomer Elohim Yehi Or, que la lumière soit, c'est le projet. Vayehi Or, c'est la réalisation, et la lumière fut. Vayar Elohim et Or qui Tov, et Dieu a vu que la lumière était bonne, c'est l'observation. Vayer et Vayvoker Yom Echad, la conclusion. Eh bien, dans chacun des différents jours de la création, il y a ce même schéma. Et on arrive à la fin du 6e jour, il y a marqué Vayer et Vayvoker Yom HaShishi. Zéou. Et à ce moment-là, commence, eh bien, tout simplement, le 7e jour. Et Femlot commence le 7e jour. Et on nous dit, Vayechoula Shamaim Varet, Vechol Tsebam, vous connaissez le verset par cœur. Vayechal Elohim Bayom HaShevim, l'Arto HaShirasa, Vayishbot Bayom HaShevim, comme l'Arto HaShirasa. ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Il manque ce dernier verset, ויערב ויבוקר יום השביעי. Il n'est pas marqué. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas marqué? Ça veut dire tout simplement que d'après la Torah, le 7e jour n'est pas terminé. Les amis, cela fait très exactement 5781 ans que nous sommes dans le 7e jour. Waouh ! Mais ce 7e jour où Dieu a arrêté de bosser, eh bien, c'est le moment, c'est l'endroit où nous, on peut bosser. Et combien de temps avons-nous pour, eh bien, réaliser le projet du 7e jour ? Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Nous dit le Talmud, Al tikra bereshit ela barashet. Al tikra bereshit ela barashet. Ne lis pas bereshit, mais lis pour 6000 ans le monde a été créé. En d'autres termes, la fourchette dans laquelle l'homme, eh bien, doit construire ce monde, à faire le 7e jour, eh bien, c'est 6000 ans. Il dira le livre de Tehilim, qui elef shanim beinecha keyom etmol ki yavor. En d'autres termes, nos 6000 ans sont à mettre en relation directement avec les 6 jours de la création. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien, on peut comprendre cet enseignement extraordinaire du Sefer HaZohar repris par le Gaon de Vilna. Rabotai, 6000 ans nous permettent au final d'arriver à conclure le 7e jour pour pouvoir rentrer, pénétrer dans le 8e jour. Le 8e jour, Zeyom Shekulo Shabbat. C'est ce qu'on dit dans tous les piyutim. Des chansons qu'on chante pour Shabbat. Le huitième jour, c'est Razeyom, Shumei Nolamaba. Yafemot, c'est l'objectif à atteindre. Aval. Si c'est l'objectif à atteindre ici, eh bien, ce n'est malheureusement pas encore le cas. Sauf au Beit Hamikdash, au Mishkan. Car lorsqu'on parle de la construction, de la réalisation du Mishkan, on nous dit, vaïe, bayom, hachemini, kara, moshe, le aaron, le vanav, le zikne, Israël. L'inauguration du Mishkan s'appelle ayom, hachemini. En d'autres termes, rabotai. Hamikdash, c'est yom, hashabbat. Dans l'espace. Hashabbat, c'est yom, hashabbat, dans le temps. Les deux s'appellent yom, hachemini. Oui, chaque semaine, on essaye de s'attacher un petit peu le jour du Shabbat à cette dimension de Mikdash. Mais ce n'est que très temporaire. Et après, on revient dans le Olam HaMaaseh parce qu'on n'a pas encore terminé notre 7e jour. Mais viendra donc un temps, ou alors est venu un temps, où ça y est, on termine le projet du 7e jour. Alors officiellement, le 7e jour se termine à l'an 6000. Aval nous dit, c'est faire à Zohar, dans la parasha de Vayakel, Yemea olam mitchalekim le shisha keneged sheshet yemea briya, c'est ce qu'on vient de dire. Elef ha-shevi keneged ha-shabbat. Shit alfe shenei ave alma. Et là, nous dit le Zohar, et c'est ça l'enseignement incroyable. Puisque le septième jour est keneged ha-shabbat, eh bien, on peut rentrer dans le Shabbat un peu avant le Shabbat. Vous savez, le Shabbat, ça commence quand ? Ça commence, eh bien, lorsque le vendredi est terminé. Quand est-ce qu'il est terminé ? Eh bien, le coucher du soleil, sortie des étoiles. Ah, coucher du soleil, sortie des étoiles. Eh bien, c'est la notion halakhique qu'on appelle Ben Hashmashot. C'est pas très clair. Et donc, on fait rentrer Shabbat avant. On fait rentrer Shabbat avant l'heure astronomique. Ce fait de faire rentrer Shabbat avant s'appelle Tosefet Shabbat. On rajoute de la Kedusha. Fémeode. Mais est-ce qu'on peut faire rentrer Shabbat à 10h du matin le vendredi? Bien sûr que non. Donc la Tosefet Shabbat, elle a quand même une dimension à respecter. Dit le Zohar, Rabotai. De la même façon qu'on fait rentrer Shabbat un peu avant, eh bien le Shabbat du monde, il peut rentrer un petit peu avant l'an 6000. On peut ressentir Kdushat HaShabbat dans le monde du septième jour, un peu avant la fin des 6000 ans. Quand ? Eh bien, nous dit le Sefer HaZohar, Keminyan Erev Shabbat. Keminyan Erev Shanim Lifne Siyum HaElef HaShishi. Erev Shabbat, c'est 272 en Gematria. Dit le Gaon de Vilna, 272 ans avant l'an 6000, c'est le moment où Kdushat HaShabbat commence à rentrer. C'est le moment où tu commences à ressentir Kdushat HaShabbat dans le monde. Pas le Shabbat une fois par semaine, Shabbat du monde. Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Quand tu fais un tout petit calcul, eh bien, tu vas arriver à ce que 272 ans avant l'an 6000 nous amène en langage profane, nous amène à l'année 1967. L'année 1967, Rabotai, c'est la guerre des six jours. Oui, 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 vous m'avez bien compris. Il y avait la guerre des six jours pour la six jours de la création. Et lorsqu'on est arrivé à la guerre des six jours, où nous sommes revenus à l'endroit du Mikdash, imaginez-vous la guerre des six jours 1967, Zerf Shabbat, pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de l'endroit, nous sommes rentrés sur le mont du temple et nous avons dit « Le mont du temple est entre nos mains ». Alors certes, nous n'avons pas encore construit le Beth Amikdash, mais les premières bases de cette dimension de Kedusha dans l'espace a été posée. La guerre des six jours est donc le moment où on commence à terminer le projet du septième jour. C'est le moment où la Kedusha du temps commence à rejoindre la Kedusha de l'endroit grâce à cette identité du peuple d'Israël. Le Mishkan va être construit par le peuple juif et va être dirigé dans ses travaux par deux hommes, Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda et Aholiav ben Achisamach le Maté Dan. Nous dira Rashi, pourquoi est-ce qu'il faut un chef de projet de Yehuda et de Dan ? Parce qu'on dit, Yehuda, c'est un meoulé ma ashvatim, vedan, c'est un yaroud ma ashvatim. Mais l'homme chané, on a besoin de tout le peuple juif. S'il y a un dirigeant de Yehuda et de Dan, eh bien, ça englobe tout le Am Israël. À ce moment-là, ces trois identités, que sont Am Israël, à Shabbat, vers Mikdash, eh bien, se réunissent. Et à ce moment-là, eh bien, nous pouvons tout simplement rentrer et commencer à ressentir cette Kedusha du Yom HaShemini. C'est ce que nous allons faire dans quelques heures lorsque nous allons nous asseoir autour de la table de Shabbat et que nous allons chanter ces Zmirot Sheu Me'ein Olam Haba Shabbat Shalom Lekulam.